Chapitre 46. Quand Richard eut fini de décharger le dernier chariot de barres de fer, il se pencha en avant, s'appuya à la pile qu'il venait de constituer et se laissa le temps de reprendre son souffle. Pour ce genre de travail, il était toujours plus agréable d'être deux, un dans le véhicule et l'autre à l'extérieur. L'homme censé aider le sourcier déchu avait démissionné quelques jours plus tôt, affirmant qu'il avait été injustement traité. Un bon débarras aux yeux de Richard. Même quand il consentait à ne pas tirer sa flemme, ce type était si maladroit et peu motivé qu'il compliquait encore les choses. La lumière qui filtrait des hautes fenêtres pâlissait, annonçant la fin de la journée. En sueur, Richard aurait donné cher pour un bon bain dans un lac de montagne. Se sentant rafraîchi par cette seule idée, il imagina un paysage de rêve et crut un instant qu'il entendait un clapotis d'eau. Mais c'était Ishak qui approchait de lui avec une lampe à huile.
« Tu en fais trop, Richard.
On m'a engagé pour ça, non ?
Suis mon conseil, fiston. Le zèle est tout juste bon à s'attirer un tas d'ennuis. »
Depuis 3 semaines qu'il travaillait à l'entrepôt, Richard avait fait la connaissance de pas mal d'autres employés. Du coup, il comprenait très bien ce qu'Ishak voulait dire.
« Je n'ai toujours pas très envie de nager avec une barre de fer pliée autour du cou. »
Ishak ne put s'empêcher de sourire.
« Ce jour-là, j'ai lancé ça pour apaiser les soupçons de Jory, rien de plus. »«
Je sais, Ishak. » Jory était le cocher qui avait refusé de décharger le chariot la première nuit. Pas un mauvais bougre, mais beaucoup trop porté sur les règles et les règlements.
« Ici, ce n'est pas comme à la ferme, »
reprit Ishak.
« Sous le règne de l'ordre, beaucoup de choses ont changé. » Pour ne pas avoir d'embêtement, il faut tenir compte des besoins des autres. Le monde est comme ça et personne n'y peut rien. »
Saisissant tous les sous-entendus de ce discours apparemment banal, Richard hocha gravement la tête.
« Tu as raison, Ishak. Merci beaucoup. J'essaierai de me souvenir de tes sages propos. Notre groupe de travailleurs a une réunion ce soir. Tu ferais mieux de te mettre en chemin. »
« Tu crois ? Il est tard, je suis fatigué et... »«
Tu veux te faire remarquer ? Si les gens commencent à raconter que t'as aucun sens civique... »
Je croyais qu'assister à ces réunions était facultatif. Ishak éclata de rire. Résigné, Richard alla chercher son sac au fond de l'entrepôt, puis sortit afin que son ami puisse fermer et verrouiller la porte. Dehors, alors que la nuit tombait déjà, il reconnut la silhouette de Nietzsche. Assise sur le muret, près de l'entrée de l'entrepôt, elle l'attendait, presque comme tous les soirs. Toujours en quête d'un logement, elle avait dû passer sa journée à faire la queue. D'abord pour obtenir de nouvelles adresses, puis afin d'acheter du pain et d'autres produits de première nécessité. À présent, il ne leur restait plus qu'à regagner leur abri dans une ruelle relativement tranquille. Pour s'assurer que personne ne l'investisse, Richard avait donné la pièce à des gamins. Assez jeune pour se contenter de quelques sous, il s'était révélé suffisamment redoutable pour décourager les intrus.
« Tu as eu du pain ?»
demanda le sourcier quand il eut rejoint la sœur de l'obscurité. Nietzsche se leva souplement.
« Pas aujourd'hui. Quand mon tour est arrivé, il n'y en avait plus. Mais j'ai pu acheter un chou et je nous ferai une bonne soupe. »
Affamé, Richard aurait volontiers mangé sur le champ une belle tranche de pain. La soupe mettrait une éternité à cuire.
« Où est ton sac ? »
demanda-t-il.
« Et ce fameux chou ?»
Nietzsche sourit puis sortit de sa poche un petit objet que Richard mit un certain temps à reconnaître dans la pénombre. Une clé.
« Tu as trouvé une chambre ? Je suis passé au bureau d'inspection de l'équité urbaine cet après-midi. Leur nom étant arrivé en tête d'une liste, maître et maîtresse Seifer ont enfin le droit d'avoir un toit sur la tête. Ce soir, nous dormirons au chaud. Une excellente chose parce qu'il menace de pleuvoir. J'ai déjà déposé mes affaires dans notre chambre. »
Richard massa ses épaules douloureuses. Comme toujours, il était révulsé d'avoir entendu Nietzsche parler de « maître et maîtresse Seifer ». La mascarade que lui imposait la sœur de l'obscurité lui pesait de plus en plus, surtout lorsqu'il pensait que Callan en souffrait aussi. En de très rares occasions, il lui semblait que ce que faisait Nietzsche avait un sens profond, en tout cas pour elle, mais la plupart du temps, l'absurdité de cette histoire lui donnait envie de hurler.
« Où est cette chambre ?»
demanda-t-il, espérant qu'elle n'était pas située à l'autre bout de la ville.
« Nous y sommes déjà passés. Tu te souviens, le bâtiment aux murs souillés de crasse ? Nietzsche, tous ces immeubles sont sales.
C'est vrai, mais tu reconnaîtras l'endroit quand nous y serons. Une des taches ressemble à la croupe d'un cheval.
Je meurs de faim, et avant le dîner, je devrais encore aller à une réunion.
Tant mieux, dit Nietzsche. Les groupes de travailleurs sont très utiles. Ils aident les gens à rester sur le droit chemin et à ne jamais perdre de vue leur devoir sacré, secourir les plus démunis qu'eux. Ces réunions duraient parfois des heures, et Richard s'y ennuyait à mourir car il n'en sortait jamais rien de concret. Pourtant, certaines personnes les attendaient impatiemment, avides de vanter devant un auditoire les mérites de l'ordre. C'était leur heure de gloire, les seules occasions au milieu d'une morne existence où ces individus se sentaient importants. Manquer les réunions suffisait à ranger un travailleur dans la redoutable catégorie des tièdes qui ne souscrivaient pas vraiment au grand dessein de l'ordre. Si l'absentéiste ne changeait pas de comportement, on finissait par le soupçonner de subversion, le pire crime imaginable pour les fidèles de Jagang. Que ce soit vrai ou non ne comptait pas. Dans un pays où l'égalité était l'idéal suprême, dénoncer les déviants n'avait rien de choquant, bien au contraire. En fait, les délateurs étaient souvent tenus pour des héros. Le spectre de la subversion, ou de la contre-révolution, comme on disait aussi, planait sans cesse sur l'ancien monde. Très régulièrement, la garde civile emprisonnait des maîtres potentiels sur la foi de dénonciations des plus douteuses. Mais ça n'importait pas, car les tortionnaires de l'ordre parvenaient toujours à arracher des confessions aux suspects. Dans l'ancien monde, un prévenu devait prouver son innocence. Et s'il n'y parvenait pas, la présomption de culpabilité lui garantissait un long séjour dans un camp de rééducation. À Alterang, beaucoup de gens s'inquiétaient des agissements des factieux financés par l'étranger. Bien entendu, on affirmait que le Nouveau Monde tirait les ficelles de ses marionnettes. Régulièrement, de scandaleuses conspirations étaient déjouées à la toute dernière minute, grâce à l'efficacité et au flair des représentants de l'ordre. Ou justement, des troupes de travailleurs tellement précieux pour arracher le mal à la racine. Sur beaucoup de places publiques, les cadavres des déviants pendus haut et court étaient laissés à pourrir jusqu'à ce que les charognards les aient dévorés. Une façon de rappeler à tout le monde où pouvaient mener les mauvaises fréquentations. Du coup, dès qu'un imprudent osait une remarque qui s'écartait de la ligne de l'ordre, il se trouvait toujours quelqu'un pour lui lancer « Tu as envie de finir inhumé dans le ciel ?» Une plaisanterie rituelle qui ne faisait plus rire grand monde. Alors que Nietzsche et lui s'engageaient dans la rue qui menait à la salle de réunion, Richard bâilla à s'en décrocher la mâchoire.
« Désolé, dit-il, mais je ne me souviens plus de la tache qui ressemble à une croupe de cheval.
Parce que tu t'intéressais à autre chose. C'est là que vivent ces trois-là.
De qui parles-tu ? »
Dans la rue, des dizaines de gens, la plupart inconnus de Richard, se dirigeait aussi vers la salle de réunion. Soudain, le sourcier comprit à qui Nietzsche faisait allusion.
« Les trois voyous armés de couteaux, tu nous as trouvé une chambre dans ce bâtiment-là »
Nietzsche hocha la tête.
« De mieux en mieux. Tu n'as pas demandé s'il y avait des logements libres ailleurs ?
Quand on est nouveau en ville, obtenir si vite un toit est un coup de chance. Si on refuse, on repasse tout en bas de la liste.
Tu as déjà donné de l'argent au propriétaire ?
Tout ce que j'avais, oui.
Donc il ne nous reste plus rien pour finir la semaine.
Il faudra faire durer la soupe, c'est tout.
Richard aurait juré que Nietzsche lui mentait. À coup sûr, elle avait insisté pour qu'il vive dans ce bâtiment. Savoir comment il se comporterait avec les trois voyous, maintenant qu'il ne pouvait plus les éviter, devait l'intéresser au plus haut point.
Elle ne cessait pas de poser des questions bizarres ou de lâcher des déclarations péremptoires, afin de voir de quelle manière il réagissait. Mais que lui voulait-elle exactement ? Après des semaines de vie commune, il n'en avait toujours pas la moindre idée. Les trois petites brutes l'inquiétaient beaucoup. Le jour de sa capture, la gielle de Kara avait blessé Nietzsche et infligé exactement la même douleur à Callan. Si les truands en herbe s'en prenaient à la sœur de l'obscurité, l'inquisitrice souffrirait en même temps qu'elle. Une idée qui terrifiait son mari. Après être entrés, Richard et Nietzsche s'assirent sur un banc au fond de la salle de réunion. Pendant les discours enflammés sur la gloire et la magnanimité de l'ordre, le sourcier repensa au cours d'eau qui coulait derrière la cabane dans les montagnes. et revit qu'Alan y trempait les pieds en soupirant d'aise. Imaginez ses chevilles l'emplissaient d'un désir mêlé de désespoir.
Alors que des orateurs débitaient de fats discours sur la nécessité d'aider les autres, apprises par cœur, ces litanies n'avaient plus aucun sens, mais ça ne dérangeait personne.
Richard se souvint de la joie de Callan quand il lui avait offert les verrons.
Après les monologues moralisateurs, on passa aux dénonciations. Dans l'assistance, quelques personnes se levèrent pour signaler les absences, donner les noms des coupables et souligner combien ces défections étaient graves pour l'ensemble du groupe de travailleurs. Comme toujours, ces interventions furent saluées par des murmures approbateurs. Ensuite, ce fut le tour des requêtes publiques. Se levant aussi, certaines épouses de travailleurs annoncèrent qu'il leur fallait plus de lait parce qu'elles venaient de mettre au monde un enfant. D'autres demandèrent de l'aide, arguant que leur mari était malade. Enfin, certaines signalèrent qu'elles avaient besoin de médicaments pour soigner un vieux parent alité. Après chaque intervention, on votait à main levée pour décider si le groupe devait aider les requérantes. Dans un coin, quelqu'un notait les noms de ceux qui ne levaient pas la main. Selon Ishak, ce comportement était autorisé quand on jugeait une requête abusive à condition de rester exceptionnel. Sinon, on pouvait être sûr de figurer sur une liste de surveillance. Même s'il ignorait de quoi il s'agissait, Richard se doutait que ce n'était pas très agréable, et son ami lui avait confirmé qu'il valait mieux éviter ce genre de mésaventure. Pour cela, il suffisait de lever la main assez souvent. Se fichant de tout ça, au fond, il n'était pas là pour améliorer la vie dans l'ancien monde. Le sourcier levait le bras systématiquement. En Alterrang, comme en Anderit, les gens s'en remettaient à l'ordre pour conduire leur vie, et ils étaient ravis qu'on se charge de penser à leur place. Alors pourquoi Richard se serait-il creusé la cervelle? Bien qu'elle fût surprise et parfois déçue de le voir voter automatiquement oui, Nietzsche ne lui avait jamais fait de remarque à ce sujet.
Richard levait la main machinalement et il s'en portait très bien.
Ce soir-là, un sourire sur les lèvres, il exerçait son droit à la solidarité en pensant à l'émerveillement de Callan, le jour où il lui avait offert bravoure. Pour lui redonner goût à la vie, il aurait volontiers sculpté une montagne.
Quand les femmes eurent terminé, un homme se leva pour se plaindre des conditions de travail désastreuses qui l'avaient poussé à quitter la compagnie de transport. Non sans surprise, Richard reconnut le tir au flanc qu'il avait laissé se débrouiller seul avec des tonnes de barres de fer. Fidèle à sa politique, il leva quand même la main quand on proposa que l'homme reçoive 6 mois de salaire en compensation. Après les requêtes, les travailleurs en bonne santé apprenaient quel pourcentage de leur salaire serait prélevé pour aider les nécessiteux. Car les gens sains, avait-on dit à Richard, se devaient d'aider ceux que la maladie privait du droit de travailler. Dès qu'on appelait son nom, chaque homme se levait et s'entendait dire combien d'argent il lui faudrait consacrer au bien-être de tous. Passant le dernier, puisqu'il était nouveau, Richard se campa face aux délégués généraux assis derrière une longue table, en réalité de vieilles portes posées sur des tréteaux. Ishak comptait parmi les délégués, et Richard ne l'avait jamais entendu s'élever contre une décision prise par ce curieux cénacle. Quand ils eurent fini de converser à voix basse, les quelques femmes qui en faisaient partie murmurèrent à l'oreille du président de séance qui hocha 2 ou 3 fois la tête.
« Richard Seifer,
dit-il,
étant nouveau en ville, vous avez du retard à rattraper en matière de contribution au bien commun. En conséquence, votre salaire de la semaine prochaine sera entièrement consacré à aider vos camarades travailleurs. »
Le sourcier en resta bouche bée quelques secondes.
« Mais comment paierai-je mon loyer et ma nourriture ?»
Tous les regards se tournèrent vers l'insolent qui osait contester une décision prise à l'unanimité.
« Jeune homme, vous devriez être reconnaissant au Créateur de pouvoir travailler. Ceux qui ont moins de chance que vous implorent de l'aide et vous pensez d'abord à votre enrichissement personnel ?»
Richard décida de ne pas insister. Qu'importaient ces histoires absurdes? Et à quoi bon se battre, puisqu'il se fichait de tout?
Oui, messire, je vois ce que vous voulez dire. Sachez que je me réjouis de sacrifier mon salaire au nom du bien-être général.
Et tant pis s'il ne lui restait plus rien après que Nietzsche eût dépensé tout leur argent pour une chambre miteuse. Quand ils furent sortis, bien après la tombée de la nuit, Richard jugea quand même judicieux d'aborder le sujet avec la sœur de l'obscurité.
« Maintenant, dit-il, il va falloir demander au propriétaire de nous rendre l'avance. Nous retournerons dans la ruelle jusqu'à ce que j'aie de nouveau quelques sous.
On ne nous restituera pas le loyer. Mais cet homme comprendra que nous sommes dans le besoin et il nous fera crédit un moment. À la prochaine réunion, tu exposeras nos difficultés au groupe et on te versera une allocation de charité pour les résoudre. »
Épuisé, Richard se demanda un moment s'il ne faisait pas un mauvais rêve.
« De charité ? Il s'agit de mon salaire en échange de longues journées de travail. »
« C'est une façon égoïste de voir les choses, Richard. Si tu as un emploi, tu le dois au groupe, à la compagnie de transport et à l'ordre impérial. »
Trop fatigué pour polémiquer, Richard abandonna le sujet. De toute façon, quelle justice pouvait-on attendre d'une société imaginée par des gens comme Jagang ? Dormir un peu, voilà tout ce qui lui faisait encore envie. Quand ils entrèrent chez eux, Richard et Nietzsche surprirent un des trois voyous, en train de fouiller dans les affaires de la sœur de l'obscurité. Des sous-vêtements dans une main, il se retourna et eut un sourire mauvais. Torse nu comme d'habitude, il se redressa de toute sa hauteur pour défier Richard.
« Eh bien, on dirait que nos deux rats ont trouvé un trou où se cacher. »
Il relut à Nietzsche, la déshabillant du regard. La sœur de l'obscurité récupéra son sac, arracha ses sous-vêtements au sale gamin et sous son regard goguenard entreprit de les remettre à leur place. Un instant, Richard craignit qu'elle oublie le sort de maternité et déchaîne son pouvoir sur le voleur, mais elle se contenta de le foudroyer du regard. La chambre empestait la moisissure. Se sentant oppressé par le plafond très bas, Richard grimaça en constatant qu'il était presque noir à cause de la fumée des bougies et des lampes. Avec l'odeur, cela faisait ressembler la pièce à un caveau. Et c'était là qu'il devait vivre. À la lueur de la bougie glissée dans un support mural, près de la porte, il fit du regard le tour de son nouveau foyer. Dans un coin, contre un mur taché de chiures de mouches, il repéra une armoire bancale privée d'une de ses portes. En face, devant la fenêtre à la vitre opacifiée par la crasse, les deux chaises et la table en bois moisi semblaient sur le point de s'écrouler toutes seules.
« Comment es-tu entré ici ?»
demanda soudain Nietzsche au petit truand.
« Le passe du propriétaire ?»
s'exclama le gamin en brandissant une clé.
« C'est mon père, si tu veux tout savoir. J'étais venu vérifier vos affaires pour m'assurer que vous ne cachiez pas des écrits subversitifs. »«
Parce que tu sais lire ?»
cracha Nietzsche.
« À la façon dont tu prononces certains mots, permets-moi d'en douter. »«
Pas question que des subversitifs vivent sous notre toit. » C'est dangereux pour tout le monde et mon père a le devoir de les dénoncer. »
Richard s'écarta pour laisser sortir l'adolescent, mais il le retint par un bras quand il le vit s'emparer de la bougie.
« Elle est à nous, »
dit-il.
« Sans blague, et tu peux le prouver, mon gars ?»
Richard serra plus fort le bras musclé de l'adolescent. Le regardant dans les yeux, il désigna la bougie de sa main libre.
« Oui, parce que mes initiales sont gravées sur la base. »
Sans réfléchir, le garçon retourna la bougie pour vérifier. Bien entendu, de la cire chaude s'écrasa sur le dos de son autre main. Criant de douleur, il lâcha son dérisoire butin.
« Je suis désolé !»
s'écria Richard, secrètement ravi que son petit truc ait marché. Il se baissa et ramassa la bougie.
« Tu vas bien, j'espère ?»«
C'est très douloureux, mais au moins tu n'en as pas eu dans les yeux une chance parce que ça fait un mal de chien. »«
Mais comment tu le sais, gros malin ?»
Là où je vivais, c'est arrivé à un pauvre garçon.
Sortant à demi dans le couloir, Richard profita de la lumière d'un autre bougeoir pour faire mine de graver un R et un C dans le pied de la bougie.
« Tu vois, ce sont mes initiales. »
Cette fois, l'adolescent ne fit pas l'erreur de vouloir vérifier au cas où il s'agirait d'un nouveau piège.
« Ouais, ouais, »
marmonna-t-il. Quand il fut sorti, Richard le suivit et ralluma sa bougie à la flamme de celle du couloir. Au lieu de s'éloigner, l'adolescent se retourna.
« Comment ce type a-t-il été assez idiot pour se mettre de la cire dans les yeux? C'était un grand bœuf borné comme toi ?»«
Ah non, pas du tout.
Il s'agissait d'un jeune homme téméraire et un peu arrogant.
Mécontent qu'il ait flatté la croupe de sa femme, un mari jaloux lui a versé de la cire chaude dans les yeux.
« Et ce crétin n'a pas pensé à les fermer ?»
Pour la première fois, Richard gratifia l'adolescent de son sourire de messager de la mort.
Hélas, on lui avait coupé les paupières. Chez moi, on ne plaisante pas avec les hommes qui ne respectent pas les femmes.
Sans blague.
Comme je te le dis. Et pour être franc, on ne lui avait pas coupé que les paupières.
Tu me menaces, mon gars ?
Non. Rien de ce que je ferais ne pourrait te nuire plus que le traitement que tu t'infliges.
Mais il veut dire quoi, ce charabia ?
Tu ne réussiras jamais rien. Condamné à rester de la vermine jusqu'à la fin de tes jours. Tu n'as qu'une vie et tu la gaspilles. Une honte, mon garçon. Tu ne sauras jamais ce que c'est d'être heureux, d'accomplir une action méritoire ou d'être vraiment fier de soi. Avec le mal que tu te fais, je n'ai pas besoin d'en rajouter.
La vie m'a distribué de mauvaises cartes, c'est tout. Qu'est-ce que j'y peux, d'après toi ?
Changer la donne, tout simplement.
Et comment ça, espèce de génie à la noix ?
Pour commencer, regarde dans quelle porcherie tu vis. Cet endroit est à ton père. Si tu avais un peu de fierté, tu essaierais de l'entretenir.
Et il est le gérant, pas le propriétaire. Le type qui possédait l'immeuble exploitait ses locataires. Mais l'ordre a réquisitionné les lieux, et ça va mieux depuis. Pour ses crimes, l'ancien propriétaire a été torturé à mort. Mon père est un simple logeur. Nous travaillons pour que des miteux comme toi ne dorment pas dans la rue. Où veux-tu que nous trouvions l'argent pour rénover cette poubelle ?
L'argent ? Il en faudrait pour nettoyer les immondices qui pourrissent dans le couloir ?
Ce n'est pas moi qui ai jeté ces cochonneries.
Et les murs ? Tu crois qu'il faut une fortune pour les lessiver ? Tu as vu le plafond de ma chambre ? Voilà au moins 10 ans qu'il n'a pas vu une éponge.
Tu me prends pour une femme de ménage ?
Et les marches du porche ? Un jour, quelqu'un se brisera la nuque en tombant. Peut-être toi d'ailleurs, ou ton père. Si tu les réparais, histoire de faire quelque chose d'utile pour une fois.
Je te l'ai dit, nous n'avons pas d'argent.
Il n'en faut pas. Il suffit de les démonter, de nettoyer les joints et de poser de nouvelles cales que tu pourrais tailler dans n'importe quel bout de bois.
Si t'es si malin, pourquoi ne le fais-tu pas toi-même ?
Excellente idée. Je m'en chargerai.
Vraiment ? Moi, je parie que tu racontes n'importe quoi.
Demain soir, après le travail, je réparerai ces marches. Et si ça t'intéresse, je te montrerai comment procéder.
Je viendrai. On voit pas tous les jours un crétin réparer des trucs qui lui appartiennent pas.
Ces marches ne sont pas à moi, mais je les emprunterai tous les jours parce que je vais vivre ici. Si ma femme se cassait une jambe, je ne serais pas content.
Si tu viens, mets donc une chemise, par respect pour les dames qui habitent l'immeuble. Et si j'arrive torse nu ?
Dans ce cas, je te mépriserai trop pour t'apprendre quelque chose et tu perdras ton temps.
Et si je me fiche de savoir comment réparer des marches ?
Eh bien, j'aurais appris quelque chose sur toi.
Parce que selon toi, réparer des foutues marches devrait m'intéresser.
Pas nécessairement, mais apprendre quelque chose, même si c'est très simple, est en principe une motivation suffisante. Pour être fier de soi, il n'y a rien de mieux qu'accomplir une œuvre utile.
Peut-être, mais je suis déjà fier de moi.
Parce que tu prends pour du respect la terreur que tu inspires aux gens. De toute façon, ce ne sont pas les autres qui confèrent sa dignité à un homme, mais lui-même. Hélas, tout ce que tu sais faire pour le moment, c'est rouler des mécaniques en ayant l'air idiot.
C'est moi que tu traites d'idiot ?
Rugit l'adolescent. Il croisa agressivement les bras. Appuyant simplement un index sur sa poitrine, Richard le força à reculer d'un pas. Tu n'as qu'une vie, fiston. Tu veux vraiment la passer à insulter et terrifier les gens avec ta bande de faux durs ? Demain, je réparerai ces marches et nous saurons quelle sorte d'individu tu es.
Comme tu dis, mon gars, il est très possible que je préfère passer du temps avec mes amis.
Tu vois, tes ennuis n'ont rien à voir avec une mauvaise donne du destin. Je n'ai jamais eu beaucoup d'influence sur ma vie comme toi. Mais les rares fois où j'ai pu choisir, j'ai toujours opté pour ce qui servirait le mieux mes intérêts. Aujourd'hui, je décide de réparer ces marches plutôt que de me lamenter parce qu'elles sont dangereuses. Quand ce sera fait, je serai fier d'avoir amélioré mes conditions de vie. Pour devenir un homme, il ne te suffira pas de bricoler un peu, mais ce sera un premier pas sur le bon chemin. Si ça te chante, amène tes amis. Et je vous montrerai comment utiliser un couteau sans nécessairement le brandir à la figure de quelqu'un.
Mais il se peut qu'on vienne pour se moquer de toi, mon gars.
Si ça vous amuse, je n'y vois pas d'inconvénient.
Mais si vous voulez apprendre quelque chose, commencez par me témoigner du respect en mettant une chemise. Même si tu ne t'en rends pas compte, c'est le premier tournant de ta vie. Négocie le mal et tout ira à travers pour toi jusqu'à la fin de tes jours. Au fait, je m'appelle Richard.
Décidément, je crois qu'on viendra pour se ficher de toi, Richard.
Je ne me formalise pas qu'on me rie au nez, fiston. Quand on connaît sa propre valeur, on ne se soucie pas de la démontrer à des gens qui n'ont aucune idée de la leur. Si tu veux apprendre, tu sais ce qu'il te reste à faire. Encore une chose, si tu me menaces une nouvelle fois avec un couteau, tu auras commis la dernière erreur de ta courte et misérable vie.
Et sinon, que deviendrai-je? Un abruti comme toi qui sue sang et eau pour Ishak et sa compagnie de transport?
Comment t'appelles-tu?
Camille.
Eh bien, Camille, je m'échine en échange d'un salaire qui me permet de vivre et de faire vivre ma femme. Bref, je vends la seule chose de valeur que je possède, moi-même. Quelqu'un apprécie assez mon travail pour me verser de l'argent. Et être dans cette compagnie est un des choix dont je te parlais plus tôt. Comme réparer les marches, si tu veux le savoir. De plus, que vient faire ce brave Ishak là-dedans?
La compagnie est à lui, tu l'ignorais?
Il est seulement responsable des manutentionnaires.
Ishak vivait ici avant que l'ordre réquisitionne le bâtiment, et mon père le connaissait. Tu vas habiter dans ce qui était jadis son salon. À l'époque, la compagnie lui appartenait, mais il a choisi la voie de la lumière et renoncé aux biens de ce monde. Le groupe de travailleurs lui a appris à devenir un citoyen respectueux du Créateur. Désormais, il sait qu'il ne vaut pas plus que n'importe qui, moi compris.
Richard jeta un coup d'œil à Nietzsche, debout au milieu de la chambre et très attentive à la conversation. Un instant, il avait oublié jusqu'à son existence. Revenu à la réalité, il n'eut plus envie de polémiquer avec Camille.
« À demain, fiston. Que tu viennes pour apprendre ou pour rigoler un bon coup. C'est ta vie. À toi de choisir. »